Voilà, il est 21h10, on va reprendre cette deuxième partie. Si je peux te demander, Gilles, on a une question sur Melchisedec encore, et comme ça concerne cette partie d'exposé, j'aurais proposé que tu la traites au début, et puis après que tu continues avec ton exposé. Cette question est la suivante. Connaît-on la nationalité de Melchisedec et celle de Job?
Très intéressant. Pour ce qui concerne Melchisedec, j'aurais tendance à répondre un Jébusien, mais peut-être que je fais un anachronisme, dans le sens que peut-être pas encore eux qui ont le contrôle sur Jérusalem. C'était plus à l'époque de David, 1000 ans plus tard. Mais je ne sais pas si déjà il y a des traces de ce peuple-là ou si c'est comme ça qu'on devrait l'appeler. À ma connaissance, il n'est pas identifié clairement. Je pense que d'une manière très générale, on peut dire un Cananéen. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que c'est plus précis un peuple? Je l'ignore. Concernant Job, souvent, il a été identifié un Madianite, d'autres fois dans une région beaucoup plus éloignée, une des régions ou un des peuples qui était soit dans les environs de Moab, Édom, Madian, ou peut-être même un petit peu plus à l'Orient encore. Donc, la véritable réponse, c'est on ignore. Enfin, peut-être que Job, il y a quelque chose que je ne me rappelle pas ou que je ne sais pas, mais je ne pourrais pas dire plus. Mais ce qu'on doit retenir, ce qui est très important à retenir et que là, on constate, mais vraiment très bien, c'est que ce sont deux personnes qui n'appartenaient pas au peuple israélite et qui donc sont en dehors de ça et qui connaissaient Dieu. Malgré tout. Donc, on a déjà parlé des Kéniens dans la section précédente et maintenant on parle aussi des Kéniziens. Ça, c'est le deuxième peuple qu'on voit là, dans la liste du passage qui est juste au-dessus de nos yeux là, dans Genèse 15. Donc, les Kéniziens. On connaît un Kénizien fameux, fameux dans l'histoire d'Israël qui est Caleb. Il est généralement lié de très près à Josué. C'était l'un des deux espions qui ont été fidèles à Yahweh avec Josué dans leur rapport au sujet du pays promis. Et ça, on voit ça clairement dans Nombre 32, les versets 11 et 12. Regardez ce que ça dit. Ces hommes qui sont montés d'Égypte n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien. Donc, Caleb, c'est un Kénizien. Et Josué, fils de Noun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel, et remarquez que d'une manière spécifique, Caleb, le Kénizien, contrairement à certaines personnes qui auraient dû suivre la voie de l'Éternel, eh bien, lui, même s'il était Kénizien, il a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Que c'est remarquable! D'ailleurs, tout ce que la Bible rapporte au sujet de Caleb est tout simplement remarquable. C'est un homme qui craignait Dieu de tout son cœur. Le frère cadet de Caleb, vous rappelez-vous, c'est qui? Eh bien, c'est Othniel. Celui-là qui est présenté 6 fois sur 7 occurrences comme étant le fils de Kenaz. Eh bien, ce Othniel-là sera le premier juge en Israël. Othniel sera le premier juge en Israël. Et il est dit clairement ici, l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. Donc, c'est assez remarquable parce que lui va délivrer le peuple du pouvoir du roi de Mésopotamie qui est Kushan-Rishathaïm à cette époque. On trouve ça dans Juges 3. Et c'est donc par lui un Kénizien qui fait partie d'un peuple qui est appelé à disparaître, qui était appelé à disparaître. Et pourtant, tu vois, il y a des Kénisiens qui sont sauvés et qui connaissent le Seigneur. Dans le texte qu'on a lu dans Genèse 15, verset 19, on a un autre peuple qui s'appelle les Cadmonéens et c'est la seule occurrence de ce nom-là dans tout l'Ancien Testament et on ignore qui ils sont, mais le mot lui-même, cadmonéen, signifie simplement des gens qui viennent de l'Orient. Et on n'en sait pas plus à leur sujet. Mais le peuple suivant qui est mentionné dans Genèse 15, après les Hétiens, pardon, Après les Kéniens, les Kénisiens, les Cadmonéens, eh bien, le prochain peuple, ce sont les Éthiens ou Hittites. C'est à un Éthien qu'Abraham a acheté un champ comme lieu de sépulture, Éphron le Éthien ou Hittite, selon les versions de Bible. Et à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, l'Écriture va mentionner que les Éthiens ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. C'est dit clairement comme ça. Vous lirez 2 Chroniques 8, verset 7. Les Éthiens ou Hittites ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. Pourtant, un des soldats rapprochés du roi David, qui s'appelait Achimélec, était un Éthien. On le voit clairement dans ce passage. Lisons-le ensemble. Alors David se leva et vint au lieu où Saül campait, et il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Éthien, et à Abishai, fils de Tsijoura, frère de Joab, il dit: Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Finalement, on sait que c'est Abishai qui va descendre dans le camp. Mais pour que David s'adresse à Achimélec, Éthien, il faut qu'il fasse partie de sa garde rapprochée. Pour qu'il s'adresse à lui, entre autres, avec une telle demande, au risque de sa vie, il faut que ce gars-là soit proche, vraiment dans environnement proche de David. Il y a un Éthien qui est dans la proximité de David. C'est assez remarquable, ça. Mais le plus fameux Éthien mentionné dans l'histoire d'Israël, vous le connaissez tous, il s'appelle Uri, bien entendu, l'époux de Bathsheba. Et il est clairement identifié comme étant un Éthien, un peuple qui était pourtant appelé à disparaître, à être chassé du pays de Canaan. N'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Éthien? Et quand on réalise que le nom même de Uri signifie Yahweh est ma lumière, je n'ai aucun doute que cet homme-là, c'était un adorateur de Yahweh. C'est évident de par son nom même. Voilà, peut-être que c'est mettre trop dans un nom, mais franchement, je crois que le nom, comme on le voit très, très souvent, presque pour pas dire tout le temps dans l'Écriture, le nom représente la personne. Eh bien, Uri était un adorateur de Yahweh. Yahweh est ma lumière. Et on connaît l'histoire tragique de cet homme fidèle et vaillant. Et la mémoire de ce héros-là dans l'histoire d'Israël est même saluée dans le Nouveau Testament parce que Uri est nommé par son nom dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, rien de moins. Rien de moins. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Uri, c'est un Éthien. Et pourtant, son nom est mentionné dans la généalogie du Sauveur, du Rédempteur du monde. C'est assez remarquable de voir ce genre de détails-là dans l'Écriture. Maintenant, il y a d'autres peuples qui sont mentionnés dans Genèse 15, mais ils ont tous disparu dans l'ensemble. Mais on trouve quand même quelques personnes qui proviennent de ces peuples qui se sont tournées vers Yahweh. Même si l'ensemble des peuples ont disparu, ont été chassés et détruits, comme Dieu l'avait dit d'ailleurs, à cause de leur péché énorme, ils avaient la possibilité de se repentir et de croire en Yahweh. Et même si l'Ancien Testament ne mentionne pas un très grand nombre de personnes par leur nom, c'est évident que c'est ce qui s'est produit de par les exemples qui nous sont donnés. On peut parler de Rahab. C'est une prostituée cananéenne de Jéricho à l'époque de la conquête. Et donc, c'est une cananéenne. Elle fait partie d'un peuple appelé à disparaître. Jéricho doit disparaître, doit être détruite. Et pourtant, elle en fait partie. Elle est là. Elle a même une très mauvaise vie avant de se tourner vers Yahweh de toute évidence. Cette femme va devenir une ancêtre de Christ, puisqu'elle est la mère de Boaz. On le voit dans Matthieu 1, verset 5. Mais elle est mentionnée par son nom à 2 autres reprises dans le Nouveau Testament, dont Hébreux 11, 31, parmi les héros de la, je vous entends le dire là, de la foi. Eh bien oui, elle fait partie des héros de la foi. Rahab, cananéenne, qui n'a rien à voir avec le peuple d'Israël, pourtant sauvée et connaît Yahweh. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Elle n'était plus une prostituée, c'est évident. Mais cette identification-là sert à mettre l'accent sur qui elle était vraiment. Et donc, il n'y a aucun doute, on sait de qui on parle exactement, puisqu'on va toujours la qualifier ainsi dans l'Écriture. Pas pour la salir, mais simplement rappeler d'où elle vient et qu'elle est l'objet de la grâce de Dieu. Jacques 2, 25 parle aussi de Rahab dans des termes élogieux. On trouve une autre femme dans l'Écriture qui provient d'un peuple étranger et qui va être aussi une ancêtre de Christ, Ruth, la Moabite. Elle est mentionnée dans Matthieu 1, verset 5, puisqu'on lit Boaz engendra Obed de Ruth. Elle est une ancêtre directe, là, immédiate, de quelques générations à peine du roi David, et donc aussi, bien entendu, une ancêtre du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas merveilleux, ça? Hey, vous réalisez que les Moabites étaient interdits d'entrer dans l'assemblée du peuple d'Israël. Ils n'avaient pas de place, là. Et pourtant, par la foi en Yahweh, elle est pardonnée, elle est rachetée, elle fait partie du peuple de Dieu. C'est impressionnant de voir ce travail de grâce de Dieu dans l'Ancien Testament. On pourrait parler encore de la veuve de Sarepta, à qui Yahweh s'était clairement révélé. Dieu lui avait parlé. Elle sera même l'objet de miracles de la part de Yahweh par son prophète Élie. Encore Naaman, le Syrien, que Dieu va utiliser souverainement dans ses plans et que j'aime, mais que j'aime le récit de ce qui se passe ensuite. Je vais aller là-bas dans 1 Roi 5. C'est super, ce récit-là, franchement, génial. Pour nous montrer la bonté, la grâce de Dieu, sa miséricorde et sa patience, enfin. Je pense que tous les attributs de Dieu apparaissent dans ce texte-là. Dans 1 Roi chapitre 5, sont les, ben, déjà le verset 1, hein, Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon car il apprit que l'on l'avait oint pour roi à la place de son père et il avait toujours aimé David. Il y a une connexion là avec Israël et ensuite, que je ne me trompe pas, les versets 15. Non, ce n'est pas là. Je ne suis pas dans le bon texte où j'ai fait erreur. Ah, zut. Pop, pop, pop. Ah. Je suis déçu, j'ai pas le bon texte. Ça, c'est plutôt Hiram. Laissez-moi 2 petites secondes, là. Je vais essayer de me sortir du trouble. En trouvant le bon texte. Si quelqu'un peut me trouver le texte, là, qui m'aide et
C'est
puis
deux
me
rois
dire c'est
5.
où. 2 Rois 5. Merci, Nathanaël. Yes, super. 2 Rois 5. C'est bien de voir, d'avoir vu. Un hasard, je suis tombé sur le roi Hiram qui aimait David, là. Mais c'est plutôt 2 Rois 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Le Seigneur travaille à travers qui il veut. Et là, donc, on connaît l'histoire. Naaman vient, se présente, la solution présentée pour guérir de sa lèpre ne lui plaît pas du tout. Il se soumet quand même, finit par se soumettre. Et puis là, il revient vers l'homme de Dieu, Élisée. Et dit ceci, Naaman retourna vers l'homme de Dieu, c'est au verset 15, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman, pardon, Élisée était un exemple concret de tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Verset 17. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 minets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon, un dieu assyrien, ou syrien plutôt, quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi par défaut, hein, il n'a pas le choix, dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Élisée lui répondit, va en paix. Quelle belle histoire, c'est remarquable. Non, mais ça montre que Naaman, franchement, il a une connaissance salvatrice de Yahweh et ne veut pas offenser Yahweh dans les actes idolâtres qui lui seront imposés par son maître. Il n'a pas le choix, mais voilà, va en paix. L'Éternel n'en tiendra pas compte. De toute évidence, c'est vrai que le cœur de Naaman ne sera pas porté dans l'idolâtrie, mais pas du tout. Et il ne veut certainement pas être identifié à ce Dieu idolâtre-là, enfin, à cette idole plutôt, mais à Yahweh, le seul vrai Dieu. OK, alors Naaman le Syrien. Ensuite, on peut peut-être même parler du terrible roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Parce que, après avoir été humilié, il démontre une attitude totalement transformée à l'égard de Yahweh. Vous lirez Daniel 4, les versets 34 et 37. Alors, est-ce qu'il était sauvé? Est-ce qu'il connaissait maintenant vraiment à salut Yahweh? Ah, il y a beaucoup de commentateurs qui croient que oui, de par son attitude complètement transformée. On pourrait dire la même chose aussi concernant les habitants de Ninive. À l'époque du prophète Jonas, hein, au chapitre 3, versets 5 à 10, qui tombe devant Dieu dans la repentance. Donc, ce sont des personnes mentionnées dans l'Ancien Testament qui démontrent clairement une connaissance, alors minimale au moins, de Yahweh, là, si ce n'est qu'une appartenance à Yahweh, ce que moi je crois dans plusieurs des cas qui sont mentionnés là. Maintenant, on a vu que Dieu avait promis à Abraham que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui, et les prophètes ont constamment réitéré cette promesse-là par la suite, tout comme les psalmistes aussi d'ailleurs. Vous lirez attentivement les psaumes, si vous voulez, sous cet angle-là. Remarquez combien de fois dans les psaumes on voit que toutes les nations louent l'Éternel. C'est impressionnant, ça. Bon, certainement pas arrivé encore totalement comme on va le voir un jour, mais déjà, c'était vrai à l'époque où les psaumes étaient rédigés, qu'il y avait beaucoup de gens parmi les nations qui louaient l'Éternel. Mais il y a un avenir pour les peuples, disons, étrangers aux alliances avec Israël. À l'époque de l'Ancien Testament, dans les prophéties, on entrevoyait déjà un futur où même les nations, les pires ennemis d'Israël, allaient un jour être des enfants de Dieu, des adorateurs. Et là, je ne parle pas là, dans l'Église, mais je parle vraiment dans un contexte de restauration de ces anciens peuples-là qui un jour vont adorer le Seigneur. Regardez bien ce texte d'Ésaïe 19, les versets 19 à 25. En ce même temps, là on parle du royaume messianique à venir, ce qu'on appelle communément le millénium. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. Vous n'êtes pas impressionné par ça? Moi, je suis renversé. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, regardez ça, béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. C'est vraiment dans les plans de Dieu que toutes les nations de la terre soient bénies et que des nations même qui autrefois ont été des ennemis jurés d'Israël soient converties. C'est assez intéressant ce que le juif Furstenbaum, le docteur juif Arnold Furstenbaum, a écrit au sujet de la prophétie biblique en lien avec les nations arabes. Très intéressant. Si vous avez accès à ça, je crois que c'est en français même. C'est très intéressant sur le site d'Ariel Ministries, donc les ministères Ariel. Des textes qui sont sans équivoque, hein? Mais bien entendu, c'est à travers le peuple d'Israël que Dieu allait accomplir cette promesse-là qu'on vient de lire et toutes les autres, en particulier les promesses de rédemption, et plus précisément à travers un juif en particulier, c'est-à-dire le Messie juif, le Seigneur Jésus-Christ. On sait que le Fils de Dieu a été envoyé par son Père sur la terre pour son peuple élu d'abord. Donc Jésus a été envoyé pour Israël d'abord parce que il était celui par qui devaient s'accomplir toutes les alliances et toutes les promesses de Yahweh à Israël d'abord. Et c'est ce que Jésus lui-même a voulu souligner quand il a dit à une femme cananéenne d'origine syro-phénicienne, donc de culture grecque et qui vivait en Syrie-Phénicie, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, quand Jésus va dire ça à la femme, c'est tout simplement pour mettre l'accent sur le fait qu'il a d'abord été envoyé pour accomplir les promesses de Dieu à l'égard de son peuple. Et pourtant, Jésus a vanté la grandeur de la foi de cette femme-là et a exaucé sa prière en faveur de sa fille. Vous voyez ça dans Matthieu 15 et aussi dans Marc 7. C'est dans vos notes plus pour plus tard. Jésus a vanté la grandeur de la foi de cette femme-là alors qu'il était en train d'accomplir les promesses de Yahweh pour Israël. Il faut noter ça au passage. Et c'est encore la foi d'un non-juif pendant son ministère terrestre, un centenier romain, qui va provoquer l'étonnement même de Jésus et va amener Jésus à dire ceci, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi dans Matthieu 8. Et tout le passage est remarquable, versets 5 à 11. Ces deux personnes-là, la femme cananéenne et syrophénicienne et le centenier romain, ils illustrent en quelque part la foi en Jésus parmi des gens, des nations qui ne faisaient pas partie d'Israël durant le ministère terrestre du Seigneur. Et ce qui est impressionnant, c'est que ce sont les chefs religieux juifs incrédules qui illustrent ou représentent l'ensemble du peuple d'Israël dans son incrédulité. Donc, c'est pour son peuple d'abord que Jésus est venu, mais son peuple, Israël, a rejeté Jésus. Bien sûr qu'il y a beaucoup de Juifs qui ont cru en lui, mais d'une manière générale, Jésus a été rejeté par les siens. Et dans Matthieu 8, le Seigneur Jésus va accomplir les signes qui sont annoncés ou qui avaient été annoncés par Ésaïe le prophète, qui confirmaient sa messianité. Il est bien le Rédempteur. C'est ce qu'on lit dans Matthieu 8, les versets 16 et 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Jésus a fait ça, ces guérisons-là, ces délivrances-là, particulièrement pour confirmer sa messianité, qu'il était bien le serviteur souffrant annoncé par Ésaïe le prophète. Mais dans Matthieu 12, tout de suite après, malgré l'évidence que Jésus accomplit ces signes-là par la puissance du Saint-Esprit, que font les chefs religieux juifs? Eh bien, ils refusent de croire en lui et vont attribuer la puissance au diable dans la personne de Belzébul. C'est le rejet de la nation d'Israël de leur propre Messie. Jésus est là pour accomplir toute la lignée rédemptrice, toutes les promesses de la lignée rédemptrice. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rejettent Jésus en commettant le blasphème contre le Saint-Esprit et donc en attribuant à Belzébul la puissance plutôt qu'au Saint-Esprit de ces miracles accomplis par Jésus, ce qui va aboutir à un jugement inévitable contre Israël qui, dès ce moment-là, est mis de côté jusqu'au jour du retour de Christ. Et c'est ce que Jésus, selon ma compréhension, a voulu dire dans Matthieu 21, verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Même MacArthur pense que la nation en question ici, c'est l'Église. L'application est vraie. Mais je crois que c'est une nation de Juifs qui seront croyants lors du retour de Christ. C'est à eux que le royaume de Dieu sera donné et enlevé à la nation génération en fait, qui vivait au temps de Christ et qui a rejeté son Messie. Donc, ils ont rejeté le Messie, le royaume de Dieu leur est enlevé, il sera donné à l'Église, bien sûr, par application, mais sera aussi donné à une autre génération de Juifs croyantes, celle-là, à l'époque du retour de Christ. Et immédiatement après ce rejet de Christ par Israël, dans Matthieu 12, là, c'est là que ça se passe, eh bien, le Seigneur Jésus va se mettre à parler en parabole du royaume de Dieu dans sa forme mystérieuse tout de suite dans le chapitre suivant, dans Matthieu 13. Et le but est d'accomplir pour eux un jugement, parce qu'ils ont rejeté sa messianité. Et ça, c'est l'accomplissement d'un texte d'Ésaïe 6, les versets 9 et 10. C'est ce qu'on voit dans Matthieu 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Voilà pourquoi ils sont jugés. Voilà pourquoi Jésus parle en parabole de l'aspect mystérieux du royaume qui est l'Église. Et là, Jésus est en train d'introduire la notion de l'Église de façon parabolique, de façon un peu mystérieuse, mais bientôt, il va en parler de façon directe dans le chapitre 16 de Matthieu. Et c'est là que Jésus va dire ouvertement pour la toute première fois, je bâtirai mon Église. Moi, je me suis souvent demandé, qu'est-ce que les disciples, qui font partie du peuple juif, hein, qu'est-ce qu'ils ont compris par là? Alors, ils n'ont pas posé la question à Jésus, pardon, c'est quoi ça, l'Église? De quoi tu parles? Ils n'ont rien dit. Bon, c'est vrai qu'ils avaient peur parfois de poser des questions pour toutes sortes de raisons, mais moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien demandé, tout simplement parce qu'ils ont compris le sens d'un rassemblement de personnes ou d'une communauté de disciples formés autour du Seigneur Jésus qui allaient croire en lui. Même chose dans Matthieu 17, Matthieu 18, verset 17, quand Jésus parle à nouveau de l'Église sous son aspect local, cette fois-là dans Matthieu 18, eh bien, il ne pose pas de questions sur l'identité de l'Église. Ils ne comprennent pas toutes les implications, c'est évident, on le voit même dans les Actes, ça va être assez compliqué. Mais par contre, ils ont compris certainement un rassemblement de personnes dont Jésus est le centre. Alors, le ministère public du Seigneur Jésus va prendre fin avec son sacrifice à la croix et ça va sceller la rédemption de tous ceux qui vont croire en lui. Et Jésus va retourner au ciel, va s'asseoir à la droite de Dieu, va accomplir la promesse d'envoyer le Saint-Esprit dans ses disciples. C'est ce qu'on voit dans Acte 2 quand le Saint-Esprit descend pour la toute première fois dans les disciples lors de la fête juive de la Pentecôte. Et c'est ça qui devait marquer le début de l'Église en réalité. Et depuis la Pentecôte, chaque fois qu'une personne vient à la connaissance de Jésus comme son Sauveur et Seigneur, eh bien, comme ce qui s'est passé à la Pentecôte sans tous les signes, eh bien, là, le Saint-Esprit vient habiter dans son cœur, comme Paul le confirme aux Éphésiens, hein, qui se sont convertis bien après ces faits-là. Et Paul leur dit, en lui, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et donc, voilà, l'Église est en marche, l'Église est en pleine construction depuis la Pentecôte, et c'est le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu du Nouveau Testament, si on peut dire. L'Église, là, c'est tous ceux qui croient en Jésus par la foi, peu importe leur identité ethnique. Il n'y a plus ni juif, ni grec, dit Paul aux Galates, chapitre 3, verset 28. Et en fait, on peut distinguer ici toute l'humanité. Juif et grec, ça signifie simplement tous ceux qui sont juifs, donc qui appartiennent primitivement au peuple d'Israël qui appartient à Dieu, et tous ceux qui sont grecs, donc qui ne sont pas juifs, qui appartiennent à n'importe quel autre groupe ethnique. Donc, ce n'est pas forcément des Grecs de la Grèce, là, vous comprenez le point. C'est un idiome dans l'Écriture qui veut simplement dire juifs et non-juifs, peu importe de quelle nationalité ils sont. D'ailleurs, dans les Romains, Paul va dire au chapitre 3, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens, c'est-à-dire des non-juifs? Oui, il l'est aussi des païens. Paul répond lui-même à sa propre question. Donc, dans le temps présent, depuis la Pentecôte, hein, eh bien, le peuple de Dieu est composé de tous ceux qui croient en Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, et ils font partie de l'Église. On sait comment la construction de l'Église a débuté. On connaît le point de départ de ce peuple-là, hein, le peuple de Dieu par la foi dans l'Église. Ça débute à la Pentecôte et on sait aussi comment ça va se terminer de par ce magnifique passage de Paul que j'interprète littéralement avec une compréhension de l'enlèvement de l'Église qui marque la fin de l'Église en tant que peuple de Dieu, hein, de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà l'Église, hein? Je vous, ces deux passages qui résument brièvement le début, la fin de l'Église. Et c'est l'Église qui forme le peuple de Dieu actuellement. Elle est composée de gens de toutes les nations, de tous les groupes ethniques du monde, de toutes les races, peu importe. On est croyant en Jésus-Christ, on fait partie de l'Église. Et c'est le privilège que Dieu accorde par sa grâce. Mais maintenant, est-ce que tout cela signifie que Israël, en tant que peuple choisi de Dieu depuis Abraham, a été rejeté ou remplacé par l'Église? L'apôtre Paul répond à nouveau lui-même à cette question-là qu'il pose dans Romains 11, verset 1. Et là, j'ai mis la version Nouvelle Bible Second parce que j'aime beaucoup la réponse. Jamais de la vie. C'est super, c'est direct. Et puis, ben c'est exactement ce que veut dire le grec meganoita. C'est fort comme négation. C'est jamais de la vie, mais pas du tout. N'en est pas question. Oubliez ça. Ça n'arrivera pas. Dieu n'a pas rejeté ni remplacé Israël par l'Église. Il y a une génération de Juifs croyants un jour qui va se tourner vers le Seigneur et va dire avec un cœur régénéré, hein, parce que c'est ça le point, c'est que Israël sera régénéré, eh bien, qui diront, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On le voit déjà dans Matthieu 23, c'était annoncé prophétiquement. Et quand Christ va revenir, la régénération d'Israël va permettre l'accomplissement complet de toutes les alliances. Et je dis complet, hein, parce qu'il y a un accomplissement partiel dans l'Église aujourd'hui. Mais là, il y aura un accomplissement complet de toutes les alliances de Yahweh avec son peuple. Ça va même offrir à Israël l'occasion de servir Dieu comme jamais ils l'auront fait auparavant, de lui rendre un culte renouvelé dans un nouveau temple, celui d'Ézéchiel, dans une période fixée à 1000 ans. Donc, le peuple d'Israël va être régénéré un jour. Bien entendu, ce n'est pas tous les Juifs, sans exception, mais uniquement ceux qui vont croire en Christ. Et c'est ce que nous apprennent les Écritures. Donc, dans l'ordre des événements prophétiques, on voit que quand Christ va revenir, eh bien, il sera accompagné de ces armées qui sont dans le ciel. Ça désigne l'Église et probablement tous les saints de l'Ancien Testament, ceux de la tribulation qui auront été mis à mort, ils vont revenir avec le Seigneur. Et puis, on sait que la résurrection des corps des croyants de l'Église, ça va se produire à l'enlèvement de l'Église, mais la résurrection des corps de ceux-là qui vont aussi revenir, les saints de l'Ancien Testament et de la tribulation, eh bien, ça va se produire au moment où Jésus va revenir sur la terre pour juger et pour régner. Ça se passe en un clin d'œil, en un instant. Et quand Jésus va revenir, il va y avoir beaucoup de croyants sur la terre qui vont avoir démontré leur foi et la réalité de leur foi dans leurs agissements à l'égard d'Israël durant la 70e semaine de Daniel, c'est-à-dire la grande tribulation. Ils ne font pas partie de l'Église parce que l'Église aura été enlevée avant, mais ils font partie d'un peuple de Dieu qui n'est ni l'Église ni Israël ethnique et qui sont appelés des brebis dans le texte de Matthieu, chapitre 25, c'est dans les versets 31 à 40, un texte magnifique qui parle des brebis et des boucs. Eh bien, les brebis, là, sont tous ceux qui vont avoir cru au Seigneur pendant la 70e semaine de Daniel, la période de la tribulation, et qui auront fait du bien envers les frères du Seigneur. Hein, c'est ce que Jésus dit dans le texte de Matthieu 25, versets 31 et 40. Quand est-ce qu'on t'a vu nu et qu'on t'a habillé, etc.? Eh bien, Jésus dit, chaque fois que vous l'aurez fait à l'un ou l'autre de ces plus petits de mes frères, et là, il parle de ces croyants juifs qui viennent de la 70e semaine de Daniel. Là aussi, là, on voit que le peuple de Dieu, hein, à la fin, on a l'Église, on a aussi Israël ethnique converti, mais on a aussi les brebis qui ont pris soin de cet Israël converti pendant la tribulation, qui s'en sont occupés et qui se sont aussi identifiés clairement à eux. Maintenant, on arrive à la fin, à la toute fin des temps dans le calendrier eschatologique, si on peut dire, des événements de la fin. Et c'est évident qu'il y a seulement des croyants qui vont entrer dans le royaume messianique. Mais les brebis, là, eux qui vont entrer, ne vont pas entrer avec un corps régénéré. Ils vont être sauvés, puis ils vont entrer directement dans le royaume messianique et vont repeupler la terre en réalité. Eh bien, il y a beaucoup d'enfants qui vont naître à ces brebis-là et plusieurs d'entre eux vont se convertir au Seigneur durant la période du royaume messianique. Il va y avoir encore des conversions. Il va y avoir encore un autre peuple de Dieu qui va se former pendant le royaume messianique. Ce sont les nations qui vont marcher à la lumière du Seigneur, comme on voit dans ce magnifique passage, et c'est le dernier verset que je vous présente ensuite, c'est la conclusion. On lit ceci. Il arrivera dans la suite des temps, ça c'est une expression qui se réfère au royaume messianique, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez. Et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion, un nom poétique pour Jérusalem, sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc, un parallélisme hébraïque. Sion, Jérusalem, loi, parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils formeront des royaux et de leurs lances des cercles. Fini les armes de guerre. On va faire des instruments avec plutôt de travail. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Donc voilà, il y aura des nations qui vont être amenées à la connaissance de Yahweh durant le royaume messianique. Et après le millénium, eh bien, c'est l'état éternel. Là, on entre dans l'éternité à proprement dit, et on peut réfléchir à cela. Est-ce qu'il y aura une distinction dans l'état éternel entre l'Église, qui est l'épouse de l'agneau, c'est-à-dire le Fils, Israël, qui est la femme de Yahweh, c'est-à-dire le Père? Ça, c'est deux identités qu'on voit clairement dans la révélation progressive de Dieu au sujet de ces deux peuples de Dieu-là. Est-ce qu'il y aura encore une distinction dans l'éternité? Moi, je crois que oui. D'autres commentateurs disent non, tout le peuple de Dieu va être confondu en un seul peuple. Il me semble que l'identité de l'épouse de l'agneau, c'est trop important pour penser qu'elle va perdre cette identité-là. J'ai beaucoup de peine à croire ça, mais écoute, on verra quand on arrivera là. Je peux pas dire plus que ça. Mais il y aura aussi les croyants de tous les âges. Est-ce qu'ils vont former un peuple distinct de l'Église et d'Israël, ceux qui se sont convertis à travers les âges, depuis Adam jusqu'à la Pentecôte et ensuite après l'enlèvement de l'Église jusqu'à la fin du millénium, bien, c'est difficile de répondre dans l'absolu à cette question-là, mais on peut sans doute imaginer que l'Église et Israël ethnique vont toujours garder leur identité propre et unique à chacun. Moi, c'est ce que je crois personnellement, mais je ne peux pas l'affirmer dans l'absolu. Mais il est clair qu'il y a un seul peuple de Dieu en ce qui concerne le salut, et c'est tous ceux qui appartiennent éternellement à Dieu, comme on a pu le voir ce soir à travers toutes les Écritures. Il y a l'Église dans le Nouveau, il y a Israël dans l'Ancien, mais il y a tellement d'autres peuples qui sont en dehors même de ces deux peuples-là dans l'histoire de l'humanité qui aussi appartiennent à Dieu et qui crient avec nous un jour, Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire.
Merci Gilles. Quand bien même on est en hiver au Québec, j'imagine tu as réchauffé ta pièce par l'énergie et puis ce que tu as déployé pendant toute cette dernière session. On a toute une série de questions. Je vais en sélectionner quelques-unes qui me
Et
paraissent.
juste pendant que tu fais pour la première question, juste en attendant que tu fais ça pour la première, Nathan, je sais, je suis allé rapidement, comme à l'habitude. Je suis peut-être même allé plus vite que l'habitude. Mais le PowerPoint et les notes vont vraiment, sont complètes, là. Ça va vous aider. Vous pouvez revenir. Vous voyez que j'ai vraiment décidé d'une démarche un peu différente cette année avec les cours Biblos où je donne vraiment toutes les références et tout l'essentiel est là dans les notes. Donc, ne soyez pas inquiets, même si je suis allé très vite.
Ouais. En pensant à Melchisédek, Job, Réuel, donc des adorateurs de l'Éternel qui, sans être parmi les descendants d'Abraham, que faut-il dire du faux prophète Balaam, qui appelle l'Éternel mon Dieu, en Nombre 22, verset 18, et qui était en contact avec l'Éternel, au point que les gens pouvaient le consulter pour connaître la volonté de Dieu? Était-il aussi un adorateur comme les autres personnages cités? Est-ce qu'il est devenu infidèle au fil de temps pour l'amour de l'argent?
Écoute, j'ai volontairement laissé Balaam de côté, mais il faisait partie de l'équation au départ. Et puis, il m'embête trop, ce gars-là. J'ai préféré le laisser de côté, mais j'ai lu la thèse, enfin, la thèse, c'est plus un article assez long quand même, d'un étudiant aux États-Unis dans un séminaire qui cherchait à identifier qui sont tous ceux qui auraient pu faire partie des adorateurs de Yahweh dans l'Écriture. Et Balaam faisait partie de sa liste. Et j'ai lu pourquoi, les arguments pour et les arguments contre. Et tu as déjà mentionné des arguments pour. Les arguments contre sont, écoute, son désir de matériel beaucoup plus que d'obéir à la voix de Yahweh, son opposition à Yahweh, le fait qu'il cherche malgré tout à maudire le peuple de Yahweh à cause de son attrait pour les richesses et l'argent, tout ça, le fait qu'il sera une occasion de chute terrible pour le peuple d'Israël par la prostitution ou la débauche sexuelle. Alors, tout ça fait en sorte que difficile de l'identifier comme tel. Alors, est-ce qu'il est présenté comme un outil malgré lui dans les mains de Yahweh, moi, c'est plus ma compréhension de la chose où Dieu se sert de lui malgré lui et il est un prophète de Yahweh malgré lui. Un peu à l'image de Saül qui prophétisait malgré lui. C'était presque mais en fait, c'était un jugement de Yahweh, une forme de jugement de Yahweh. Donc, tu vois, je suis plutôt hésitant pour Balaam et je préfère le mettre dans ceux qui n'appartiennent pas à Yahweh, mais ce n'est pas à moi de décider de son sort, mais l'évidence de sa vie, son témoignage, etc., me parle beaucoup plus d'un incroyant que d'un croyant.
Ouais, malgré des signes extérieurs de piété.
Oui.
Comme tu as dit, Saül en avait aussi. Donc c'est vrai que c'est parfois difficile à juger pour nous, et puis il faut rester toujours, je crois, prudent.
Et rappelons-nous les paroles du Seigneur qui dit, ce n'est pas tous ceux qui disent, hein, qui disent les choses. Ou alors qui disent dans leur déclaration, nous avons fait ceci en ton nom. Ils ont fait des choses en son nom, puis le Seigneur ne conteste pas les résultats, il conteste le fait qu'il ne les connaît pas. Donc, Dieu peut utiliser des gens malgré eux, hein.
Merci pour cette réponse. Une autre question qui est intéressante, Romains 11, que tu as cité dans son verset 26, nous dit: Tout Israël sera sauvé. Est-ce que cela veut dire que tout le peuple se convertira à Dieu, ou Dieu fera simplement grâce à toute la nation sans tenir compte de leur état de cœur?
Non, c'est évident par la théologie de l'Écriture qu'au niveau du salut, au niveau de la rédemption, au niveau du péché, de la justice de Dieu, toute la théologie qui entoure ces éléments importants dans l'histoire du salut montre que Dieu va sauver ceux qui vont croire en lui parmi le peuple d'Israël. Mais le fait de dire tout Israël est simplement une façon de rappeler que Dieu va sauver Israël ethnique, mais c'est son uniquement les croyants parmi le peuple, ça c'est évident. Et c'est en accomplissement de ses alliances envers son peuple Israël. Donc ça n'implique pas tous les Juifs de tous les âges, mais uniquement une génération de Juifs croyants qui sera vivante au moment du retour de Christ et des événements qui vont marquer la 70e semaine de Daniel, mais qui représente l'ensemble du peuple d'Israël.
Ouais. Merci encore pour ça. Une autre question. Je ne sais pas si tu penses à des passages bibliques qui montrent que l'Église peut être appelée le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament.
Pop, pop, pop. Ça, c'est une bonne question. Je préférerais faire une recherche
OK, on la
de
laisse.
mémoire comme ça. Ouais, je pense que je préférerais faire une recherche. J'ai quelques textes dans les Actes qui me viennent à l'esprit, mais je suis pas convaincu que le mot peuple soit là. C'est ça qu'on veut, hein, le mot peuple. C'est ça, la
Oui,
demande, elle est là.
peuple
F
de
faudrait
Dieu.
rechercher. On garde cette question-là. Je crois que je vais y répondre par la suite, par email.
Alors écoute, je crois qu'on va en rester là pour les questions. Une autre partie des questions, ben, les quelques dernières qui restent, on y répondra par la suite. En te remerciant pour ton travail, je vais laisser Claude Michel conclure.
Merci.
Voilà. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Je vous remercie pour le temps que vous prenez à étudier la parole. Et puis j'aimerais vous encourager aussi à continuer à l'étudier à la maison, chez vous. J'aimerais te remercier aussi, Gilles, beaucoup pour tout le temps que tu passes pour travailler la parole. Merci pour tout ce que tu apportes aussi. Et puis j'aimerais juste prier pour finir. Eh bien, Seigneur Jésus, j'aimerais te dire merci pour cette soirée. Merci pour ce temps qu'on a pu passer autour de ta parole. Je te demande que tu bénisses cette parole, qu'elle travaille dans nos cœurs, qu'on grandisse en toi. Et puis, j'aimerais te prier pour tous mes frères et sœurs sur toute la surface de cette terre. Je te demande que tu leur fasses du bien, que tu les bénisses. Je te demande de protéger ceux qui ont besoin d'être protégés, d'encourager ceux qui ont besoin d'être encouragés. Et ouais, je veux vraiment placer chacune et chacun entre tes mains. Je le fais en ton nom, Seigneur Jésus. Amen.
Bon, merci, Claude Michel, aussi pour ta présidence. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. J'étais vraiment content d'être avec vous. Même si je ne vous vois pas, je sais que vous êtes là.